c'est bien de partager. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit état des lieux, des procédures judiciaires. Et puis après, ben, je peux répondre aux questions, on échange. Voilà, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Concernant la mort de Rémi, comme vous le savez, il y a eu deux juges d'instruction qui ont été saisis à Toulouse, qui ont donc ouvert leur instruction. L'instruction a été clôturée l'année dernière et le dossier a été renvoyé au procureur qui devait rendre des réquisitions. Donc c'est la procédure normale. À ce moment-là, quand les juges d'instruction annoncent que le dossier est clôturé, les avocats peuvent indiquer qu'ils ont, ils veulent faire d'autres actes, ils veulent faire des observations par rapport à l'instruction telle qu'elle a été menée. Donc les avocats de la famille de Rémi, on a à nouveau redemandé tous les actes qu'on avait déjà demandés et qui ont été rejetés. Donc on a re-signalé qu'il n'y avait pas eu de reconstitution. La reconstitution, on l'avait demandée dès le début, elle avait été rejetée. Donc à aucun moment dans ce dossier, les juges d'instruction, les différentes parties, les gendarmes ne se sont rendus sur place pour refaire la scène et pour voir à nouveau comment ça s'était passé. Les juges d'instruction ont indiqué qu'elles s'étaient rendues sur place toutes seules et qu'il n'était pas possible de faire une reconstitution parce que c'était encore occupé. Et puis ensuite, une fois que c'était occupé, on nous a dit que c'est trop tard puisque de toute façon, les lieux ont été modifiés. Donc ça, ça nous a été refusé. Ensuite, nous avions demandé aussi à ce que le préfet soit entendu. Donc on nous a indiqué que ce n'était pas nécessaire, qu'il n'y avait pas besoin de l'entendre et que de toute façon, on n'était que sur du pénal et que notre demande consistait à interroger les autorités administratives et que ça ne relevait pas de leurs compétences. On a demandé à voir des vidéos, on a demandé à entendre aussi le directeur de cabinet du ministère, on a demandé différents actes et tout a été refusé. Donc à nouveau, on a redemandé ça, ça a été à nouveau refusé. Systématiquement, on fait appel. Lorsque les juges d'instruction prennent des décisions, il y a ce qu'on appelle une cour d'appel, la chambre de l'instruction, ça s'appelle, pour pouvoir contester les décisions du juge d'instruction. Systématiquement, la chambre de l'instruction n'a pas été saisie, c'est-à-dire qu'il y a un président de la chambre de l'instruction qui a un pouvoir discrétionnaire et qui peut décider tout de suite de refuser sans saisir la chambre de l'instruction. Donc il a utilisé ce pouvoir discrétionnaire pour refuser systématiquement sans qu'il y ait de saisine de la chambre de l'instruction. Donc il n'y a jamais eu de débat sur les décisions qui ont été prises par les juges d'instruction. Ça a été systématiquement refusé. Et lorsque le président utilise ce pouvoir-là, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller à la Cour de cassation. On a déjà essayé, il y a de la jurisprudence, ça ne marche pas. Donc toute l'instruction a été menée pendant 2 ans comme ça. Les seuls actes qui ont été acceptés, c'est des demandes d'audition de témoins, des témoins qui étaient sur place. Vous avez dû entendre parler. Il y a donc 5-6 témoins qui ont été entendus directement par les juges d'instruction dans leur cabinet, qui ont pu expliquer exactement ce qui s'était passé en indiquant qu'il y avait une personne à côté d'eux qui semblait être Rémi et qui, vous avez dû voir dans la presse, ils ont indiqué qu'il avait levé les mains, il s'était approché et qu'ensuite ils avaient vu un corps tomber. Donc on a ces éléments-là dans le dossier, mais voilà, il n'y a pas eu plus, d'enquête par rapport à ça. Et ces témoins, ils ont pu être entendus parce que on a fait des démarches pour se rapprocher d'eux, pour leur demander de venir témoigner, et parce qu'ils ont eu le courage d'aller témoigner sans témoigner sous X, en montrant leur identité, en ayant peur. Il y en a certains qui ont été inquiétés, qui ont eu des problèmes après avec les services de police. Et donc ces personnes-là ont bien voulu aller témoigner, ça n'a pas été facile. Et leur témoignage donc est dans le dossier, mais ça n'a pas pour autant permis de faire avancer l'instruction. Et donc là, le procureur a rendu des réquisitions de non-lieu. Il a considéré que l'usage des grenades offensives était tout à fait proportionné et justifié, que les gendarmes n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser ces armes-là, qu'il y avait une extrême violence sur le terrain, qu'ils avaient reçu l'ordre de tenir le terrain et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et qu'il s'agissait d'un simple accident. Il a indiqué que, en effet, Rémi était quelqu'un de pacifiste, qui était venu pour participer à une manifestation, et qu'il s'était retrouvé là, et que c'était vraiment un accident, et qu'on n'y pouvait rien, c'était des choses qui arrivaient, en gros, quoi. Voilà, donc il a indiqué que, en tout cas, le travail des gendarmes et que l'autorité civile, tout le monde avait agi de manière normale et que on ne pouvait pas engager la responsabilité pénale ni du gendarme ni des différentes autorités. Donc voilà, donc là, les juges d'instruction doivent rendre une ordonnance pour dire est-ce qu'on renvoie ou pas devant un tribunal ou est-ce que on rend une ordonnance de non-lieu. On sait tous que à 95%, elles vont rendre une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance de non-lieu, bien entendu, nous allons faire appel. Donc, nous pouvons aller devant la chambre de l'instruction et ensuite à la Cour de cassation. Et l'idée est d'aller jusqu'à la Cour européenne, bien entendu, pour faire constater, utiliser la jurisprudence de la Cour pour dire voilà, il y a eu la mort d'un homme dans le cadre d'une manifestation, qu'il y a eu un usage disproportionné des armes, alors que même s'il y avait eu des violences à des moments par envoi de cocktails Molotov et qu'il y avait eu certaines personnes qui ont été violentes, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas utiliser des grenades dans ce cadre-là parce que la violence n'était pas telle qu'on pouvait utiliser ce genre d'armes, qu'il est inadmissible dans un État en Europe, on est le seul pays à utiliser ce type d'armes, des grenades offensives. Donc ces grenades OFF1 ont été d'abord suspendues. Il a fallu attendre très récemment pour que le décret qui interdit les grenades entre en application. Donc ça fait que depuis quelques mois que les grenades sont interdites. Il reste quand même les grenades GLIF4 qui sont encore utilisées. Elles ont été utilisées à Bure. Et vous avez tous suivi Robin qui a été mutilé par l'envoi de ces grenades-là, donc grenades GLIF4, il a perdu son pied. Les experts nous ont clairement dit que si des grenades GLIF4 avaient été envoyées dans les mêmes circonstances, Rémi serait quand même mort par l'effet de souffle et que donc ces grenades GLIF4 ont le même effet, peuvent avoir le même effet que les grenades OFF1. Et ensuite, on l'a vu, il y a des grenades de désencerclement qui sont envoyées aussi sur la population. On l'a vu avec les manifestations de loi travail. Et donc, voilà. Donc, pour nous, c'est important d'aller jusqu'à la Cour européenne pour essayer de faire condamner l'État français pour l'usage, sur le principe, de ces armes qui ne devraient pas être utilisées dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre contre la population civile. Ensuite, nous voulons aussi saisir le tribunal administratif, c'est-à-dire que là, on est sur un volet pénal, on engage la responsabilité du gendarme individuellement et éventuellement de sa hiérarchie. Mais il est important aussi d'aller devant le tribunal administratif pour faire condamner l'État dans sa mission de maintien de l'ordre et pour remettre en cause en fait, le système, c'est-à-dire le au-delà d'une personne. Il s'agit d'un fonctionnement global de la gendarmerie et donc de l'État. Et donc nous voulons aller aussi devant le tribunal administratif. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a par exemple, on engage la responsabilité de l'État. Ça a déjà été engagé pour des tirs de flashball. Il y a des jeunes qui ont été mutilés. Ils ont perdu un œil et on a engagé la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on souhaite faire. Ensuite, par rapport au délai sur l'ordonnance qui va être rendue, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va, les juges vont rendre leur ordonnance, mais on pense qu'elles vont attendre. En tout cas, il serait logique qu'elles rendent leur ordonnance concomitamment aussi à l'ordonnance qui sera rendue dans le cadre du dossier d'Elsa Moulin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Elsa, donc c'est la jeune fille qui était dans la caravane sur Gazade. Les faits ont eu lieu le 7 octobre. Et des gendarmes, dans le cadre de l'expulsion de Gazade et dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, ils étaient en treillis, ils ont été dans la maison des Dorides, ils ont jeté des gaz lacrymogènes, ils ont brûlé toutes les affaires, ils ont harcelé tout le monde. Et à ce moment-là, il y a un gendarme, on le voit, Elsa a filmé quand elle était dans la caravane, ils étaient trois, et le gendarme envoie la grenade dans la caravane. Et Elsa, par réflexe, veut prendre la grenade pour la rejeter, et la grenade explose dans sa main. C'était une grenade de désencerclement, et donc elle a été blessée à la main, elle a failli perdre sa main. Elle a encore des séquelles aujourd'hui, des séquelles physiques, parce que dès qu'elle fait un effort, elle sent des douleurs, et puis des séquelles psychologiques. Et donc ça, il y a eu aussi un juge d'instruction qui a été saisi. Et le juge vient de clôturer son instruction, son enquête. Donc c'est renvoyé au procureur. Et très certainement, dans ce dossier, le gendarme va être poursuivi parce que, comme on le voit souvent, quand il y a une vidéo, c'est difficile pour eux de se mettre tous ensemble d'accord pour rendre des déclarations sur procès-verbal pour dire non, il ne s'est rien passé. Là, on a un élément objectif. Les experts ont convenu que la vidéo était vraie et qu'elle avait pas été truquée. Donc du coup, ils sont devant un fait objectif, une preuve matérielle. Et là, ils ont du mal à dire que ça ne s'est pas passé. Et donc probablement, le gendarme va être poursuivi, renvoyé devant le tribunal concernant Elsa. Donc probablement que, en tout cas, j'ai pas de preuve, mais je pense qu'ils vont rendre... Ils vont rendre les décisions dans les deux dossiers pour dire, regardez, on n'est pas contre engager la responsabilité de certains gendarmes puisqu'on le fait dans le cadre de Elsa Moulin. Donc, ce n'est pas une mauvaise volonté de ne pas instruire. On l'a fait dans ce dossier-là. Bon, il s'avère que dans l'autre dossier, c'est un accident, on n'y peut rien. J'imagine un peu que ça va donner ça. Et puis après, bon, il va y avoir tout le tam-tam médiatique qui va suivre derrière. Donc, je pense qu'il va y avoir ces décisions-là qui vont être prises en même temps. Après sur les différentes plaintes, donc toutes les plaintes qui ont été déposées dans le cadre de Sivens ont toutes été classées sans suite. Donc je ne sais plus, on en a recensé entre 30 et 40, je crois. Elles ont toutes été classées sans suite. Il y a des plaintes qui ont été déposées sur la fin dans le cadre des violences qu'il y a eu Maison des Druides sur la dernière période, fin septembre, début octobre, où là, on envisage de saisir de nouveau le juge d'instruction, même s'il y a eu un classement sans suite, parce qu'il y a pas mal de preuves et de vidéos. Après, bon, les autres plaintes, c'est vrai que c'est compliqué. Tout le monde n'a pas forcément envie de continuer, parce qu'on veut passer, tourner la page et passer peut-être à autre chose. Enfin, voilà, donc voilà où on en est sur ces plaintes-là. Après, il y a aussi toutes les plaintes qui ont été déposées dans le cadre des violences qu'il y a eu face au pro-barrage. Donc là aussi, toutes les plaintes qui ont été déposées sur la période de mars, elles ont toutes été classées sans suite. Et là, on n'a pas encore... Bon, il faut voir chacun... on n'a pas décidé encore de ce qu'on allait faire, mais par contre, l'année dernière, les filles qui ont été... lors de la commémoration, qui ont été victimes de coups de couteau de la part d'un des pro-barrages qui était là pour accueillir le cortège. Donc les trois ont porté plainte, donc elles ont été toutes les trois victimes du même auteur. Elles ont toutes porté plainte, il y a eu audition, confrontation. Il a été mis en garde à vue trois semaines après, quelques heures, c'est tout, il n'a jamais été inquiété. Et le procureur a classé sans suite. Il y avait quand même une vidéo, il y avait des témoins, on avait de nombreuses preuves. Les trois filles avaient des versions qui concordaient et qui étaient très précises. Donc là, on a saisi le juge d'instruction récemment. On a donc déposé une plainte avec constitution de partie civile. Donc normalement, le juge d'instruction doit ouvrir une instruction et vérifier un peu ce qui s'est passé. Et notre idée, c'est aussi de rapporter après toutes les plaintes qui ont été déposées au mois de mars et même avant, pour expliquer que ça ne sort pas nulle part, cet événement, ces faits qui datent de l'année dernière, que c'est toute une organisation, une association de malfaiteurs qui a délibérément décidé de porter atteinte aux opposants et de casser un peu ce mouvement qui a émergé sur Sivens. Donc voilà où on en est sur les procédures judiciaires. Je pense avoir fait le tour. Je peux répondre aux questions si vous voulez. Et donc je voudrais juste terminer en lisant un texte qui a été écrit par Jean-Pierre, le papa de Rémi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui voulait quand même vous laisser... un écrit et un souvenir. Donc je vais vous lire ce qu'il a écrit.